Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour Inès.
Bonjour Audrey, bonjour à tous.
Il y a 150 millions d'années, des dinosaures vivaient dans l'Ain. Leurs empreintes sont restées et sont à découvrir à Dinoplagne dans le Bugey. Reportage à l'ouverture du site.
Leur court-métrage À Point, tourné dans l'Ain, remporte 2 prix. Aurélie Marpeau, sa réalisatrice, était dans nos studios.
Vous entendrez aussi le nouveau directeur de la Plaine Tonique. C'est tout de suite dans l'actu en bref.
Bourque en bref.
Feu d'artifice à Bouvant le 13 juillet à 23h.
Et pour cette édition 2021, port du masque obligatoire. Des navettes gratuites partiront du Carré Amyot de 20h30 à 22h15 et permettront de repartir de Bouvant à la fin du spectacle jusqu'à 1h du matin.
Découvrir l'Europe tout en restant à Bourque.
La Maison de l'Europe et des Européens de l'Ain propose des visites les jeudis 15 et 22 juillet dans les rues de la ville. Au programme, tour de lieux en lien avec l'Union Européenne. Une balade animée par les membres de la Maison de l'Europe. Le départ est à 15h.
Mairie et médiathèque burgienne passent à l'heure d'été.
L'accueil de la mairie reste ouvert. Attention, les permanences du samedi sont suspendues quelques semaines. Fermeture temporaire aussi pour le pôle Amédée Mercier et la maison de quartier des Vennes. Toutes les infos sur bourg-en-bresse.fr. Les médiathèques Camus, Césaire et Vaillant s'adaptent aussi à l'été. Elles sont ouvertes mardi et vendredi, seulement l'après-midi, et le mercredi et samedi de 10h à 12h30, puis de 14h à 18h. À 17h jusqu'à la fin août. Et à période exceptionnelle, emprunt exceptionnel, 30 documents pour une durée de 6 semaines, sans prolongation.
Le Tour de l'Ain passera à Bourg-en-Bresse.
La première étape de la course cycliste partira le 29 juillet de Villars-les-Dombes et arrivera à Bourg-en-Bresse. L'ascension de Mantières est aussi au programme. Le champion du Tour de l'Ain sera sacré le 31 juillet à l'Élex, lors de la troisième et dernière étape.
Radio B.
Thibaut Delaplagne est le nouveau directeur du camping et de la base de loisirs de la Plaine Tonique à Montrevel-en-Bresse.
Originaire d'Isère, il est en poste depuis le 1er juin et il explique pourquoi il a pris ses fonctions.
Le tourisme, on est à une période où on est en pleine mutation, il y a un vrai virage à prendre en termes de transition écologique et sur d'autres aspects également en termes de développement durable. Et je pense qu'on est clairement sur un site qui peut être un modèle et qui peut être un petit peu une vitrine du tourisme de demain. Et pour le coup, c'est un petit peu ce projet-là et cette vision-là des choses que j'ai qui m'intéresse énormément sur place.
Donc, est-ce que vous pouvez donc expliquer un peu plus vos ambitions, votre projet ici pour la Plaine Tonique ?
C'est renforcer ce côté nature, c'est renforcer ce côté proximité également. On a un site qui s'inscrit pleinement dans une logique de territoire. Donc voilà, c'est arriver à travailler en collaboration avec tous les acteurs du territoire qui sont tout autour de nous, en ayant bien en compte qu'on a un site qui a des problématiques et des clientèles qui sont multiples. On a des gens qui viennent à la journée, qui sont plutôt habitués, qui sont plutôt de proximité. On a des gens qui viennent en séjour, qui souvent viennent d'un petit peu plus loin. Le but du jeu, c'est arriver de faire cohabiter tout le monde, que tout ça se passe pour le mieux, et ensuite d'avoir effectivement un site qui s'inscrive dans une démarche durable.
Est-ce que vous avez déjà des idées concrètes que vous voulez mettre en place le temps que vous êtes ici à la Plaine Tonique ?
J'en ai beaucoup des idées, et les idées ça ne manque pas. Après effectivement il faut voir si les idées sont pertinentes et sont prêtes à être mises en place sur le terrain. Il y a un gros projet de requalification et de modernisation du site aussi qui va commencer d'ici peu. Les idées, il y en a beaucoup. Après effectivement il faut le temps de traduire tout ça, de réfléchir à tout ça et de les mettre en place. Je suis arrivé le 1er juin, mais voilà, on va retoucher par petites touches sur cet été et puis ça va très vite s'engager ensuite pour le reste avec le projet de requalification à l'automne et avec d'autres projets qui vont venir par rapport à tout ça.
Et comment vous sentez cette saison ?
Eh ben, on la sent assez particulière. Je reste intimement persuadé que le phénomène de réservation à la dernière seconde plus que dernière minute va encore s'accentuer. On a des réservations qui arrivent le vendredi 16h pour une arrivée le soir même. Donc en termes de réactivité, en termes de flexibilité, ça nous impose entre guillemets certaines choses à mettre en place, mais à nous d'être réactifs et à nous d'être flexibles par rapport à tout ça. On a une saison, quoi qu'il en soit, qui s'annonce particulière, avec un déconfinement qui a été progressif, avec une menace sanitaire qui continue de planer, qu'on le veuille ou non. La météo, pour l'instant, n'a pas forcément joué en notre faveur sur le début de saison, sur le mois de mai et le mois de juin. On espère, j'ai envie de dire deux choses, que le virus nous laisse un petit peu tranquille d'un côté et que le beau temps revienne pour qu'on puisse en profiter du mieux possible dans un second temps.
Et des concerts et soirées thématiques sont organisés tous les mardis et jeudis soirs cet été pour rythmer la vie du camping. Des activités nautiques sont aussi proposées comme le parachute ascensionnel au-dessus du lac ou encore des bouées tractées. Dans le camping, les emplacements se remplissent petit à petit et souvent sans réservation pour les tentes ou les camping-cars. Rencontre avec les premiers occupants.
Vous venez d'où ?
Hollande.
Vous êtes arrivé quand ?
Bah, j'arrive à dimanche et il reste jusqu'au le 25, non, le 19 août. Et c'est la 12e fois que nous sommes ici.
Vous vous plaisez bien?
Oui, c'est l'ambiance, c'est la place, c'est le météo et tout. Hein?
Lac.
Tout. Et le lac, oui, ça, ça c'est pour elle. Le lac, relax. En Hollande, c'est beaucoup de travail et beaucoup de... Hein? Ici, c'est...
Calme.
Hein? Calme, doucement.
Vous venez d'où?
De vers Chalon-sur-Saône.
Pourquoi vous êtes venu ici?
Pour la piscine, les toboggans, la plage du lac. C'est un cadre très sympa. Et puis on part en vacances à l'océan juillet-août. Donc c'était pour faire un premier petit test en tente avec ma fille aussi.
Et pour le 14 juillet, le camping de Morvel ouvre ses portes gratuitement à partir de 19h pour que tout le monde puisse profiter du feu d'artifice qui sera tiré sur le lac.
L'invité de Radio B.
Commencez à dresser. Mélissa, tu peux finir le dessert. Entendu ?
C'est chamé comme endroit, ça brille partout. T'as géré, t'es une daronne.
Oh, c'est grave beau.
C'est où ?
Paname.
Tu sais, bravo, c'est ça que j'attendais de toi.
Oh, tu prends pas qu'à me parler comme ça. Ça y est, tu fais la belle avec ton restaurant de bourgeois, là.
Attends, mais j'en ai rien à foutre de stage de merde, cette école de connards, je les emmerde. J'y retournerai pas.
La bande-annonce du court-métrage À Point, réalisé par Aurélie Marpeau, avec nous en studio. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice artistique du Zoom à Bourg-en-Bresse, ce lieu dédié à la culture, ouvert à tous. On peut voir, entre autres, des courts-métrages. Alors, À Point vient de remporter le prix du public et le grand prix de la 8e édition du concours organisé par l'Union sociale pour l'habitat. Cette dernière regroupe tous les offices HLM français. Alors Aurélie Marpeau, quelle est l'histoire de votre court-métrage ?
Eh bien, c'est l'histoire d'une jeune fille qui fait de brillantes études de cuisine. Et pour valider son diplôme de fin d'études, elle doit faire un stage de professionnalisation. Et son professeur l'envoie chez Ducasse à Paris. Et je pense que ce film traite de la peur de la réussite. Voilà, d'une jeune de 18 ans qui se dit que pour accéder à ses rêves, il faut qu'elle abandonne des choses. Et voilà, elle se retrouve dans une balance, dans un questionnement qu'on se retrouve tous dans notre vie, hein, à n'importe quel âge, de se demander est-ce qu'on abandonne des choses pour aller découvrir d'autres choses nouvelles.
Alors, il faut préciser un peu le contexte de la réalisation de votre court-métrage. C'est-à-dire que l'histoire de votre court-métrage devait forcément avoir un lien avec le logement social. Expliquez-nous.
Oui, le décor est imposé pour ce concours. Il fallait que l'histoire se situe dans un quartier HLM. En revanche, aucune contrainte de genre, aucune contrainte d'histoire, et qu'il y ait aussi la notion de vivre ensemble.
Comment ça a influencé sur votre scénario ? Est-ce que c'était une histoire que vous aviez pensée avant de participer à ce concours ? ou est-ce que vous l'avez adapté, comme vous le disiez, par rapport au lieu où ça devait se passer, etc.
J'avais envie de raconter cette histoire d'une jeune qui doit s'envoler de son nid pour faire sa vie. En revanche, ce qui était très intéressant quand on est passé en audition pour être les trois lauréats et d'avoir la bourse pour pouvoir faire notre film, on m'a posé la question en me disant « mais en fait, cette histoire, elle pourrait être dans un quartier HLM ou ailleurs ?» Et en fait, ça m'a beaucoup plu, cette question, parce qu'en fait, c'était une histoire aussi de jeunesse à un endroit, et que du coup, de ne pas rendre le quartier HLM clivant, et d'être dans des clichés, et qu'en fait, un jeune est un jeune, qu'il soit dans un quartier, ou qu'il soit dans une résidence, lotissement, qu'il soit... Voilà. Et ça m'a encore plus convaincue du fait qu'on était en train de parler d'humain, et pas de décor. Donc c'est pour ça que je pense que le film, à mon avis, en tout cas, l'humain et les rapports entre les gens, voilà, c'est un petit peu au cœur de l'histoire.
Aurélie Marpeau, pour À Point, vous avez tourné dans le quartier Terre des Fleurs à Bourg-en-Bresse. Nous y étions.
Il est 14h passées et le maquillage des acteurs n'est pas terminé. Premier jour et c'est déjà le rush pour le tournage au quartier Terre des Fleurs. Sous une tente, on s'active pour finir les derniers détails.
Alors moi c'est Noémie, la maquilleuse. En fait c'est pas un maquillage qui doit se voir, c'est juste quelque chose qui va corriger les petites rougeurs, unifier le teint et qu'il n'y ait pas de brillance. Et voilà, qu'il soit sublimé dans son naturel. C'est ça, pour son personnage.
Sur le tournage, plusieurs jeunes amateurs, mais aussi des acteurs pros comme Ilyes Kadri.
Je vais jouer le rôle d'Hichem, un des amis de Anna. C'est un personnage un peu, comment dire, qui a une grande part de sensibilité, mais qui c'est un peu un moqueur. C'est une personne qui aime bien déconner, et c'est un bon vivant en fait.
C'est toi dans la vie ça ou pas trop?
Ouais, si, il me ressemble beaucoup le personnage, ouais.
Et c'est plus facile de jouer quelqu'un qui te ressemble?
Ouais, bah oui, c'est plus facile, c'est plus naturel. Bien sûr, c'est plus facile. C'est pour ça que je suis confiant.
Noémie,
tu vas jouer quoi aujourd'hui?
Le rôle de Mélissa. Donc, je suis dans l'école de cuisine de Anna, le personnage principal, et je suis un peu en concurrence avec elle. Voilà, j'ai envie d'être meilleure qu'elle. Enfin, elle arrive à faire mieux que moi, et donc ça m'énerve. Voilà. Donc, on est un peu en concurrence, et voilà.
Et donc ça, c'est ce que tu veux faire, actrice, ou c'est un passe-temps?
De base, je voulais faire ça, et en fait, c'est très compliqué dans ce milieu. Donc du coup, j'essaie de faire ça en plus de ma formation, voilà.
Et tu es d'où?
De Bourg-en-Bresse, donc en fait, je suis chez moi, ici.
Clément.
Clément, tu vas jouer qui?
Je joue le rôle de Damien. Donc Damien, il est très ami avec Mélissa, qu'on vient d'avoir tout à l'heure. Pareil, en concurrence indirecte avec Anna, puisque... on n'est pas du même sexe, etc. Mais ça l'énerve quand même bien de voir... Une fille de cité être meilleure que lui. Et sinon, bah, voilà, plein d'ambition, mais assez jaloux.
Donc là, faut y aller, a priori.
A priori, faut y aller, effectivement.
Okay, c'est bon pour moi, tu peux y aller dessus.
Okay. Ok. Excuse-moi, redemander le moteur.
Béton, toujours. 17 sur un deuxième.
Clap.
Action.
Sur cette première scène, on retrouve plusieurs jeunes du quartier Terre des Fleurs, des figurants, mais aussi des rôles plus importants. Et c'est grâce à Arnaud Feuilleret, éducateur dans le quartier.
Bah, en partenariat avec Aurélie Marpeau, qui réalise le court-métrage, j'ai suivi ce projet de près afin d'y intégrer des jeunes du quartier de Terre des Fleurs. Donc aujourd'hui, je suis là un petit peu auprès des jeunes que j'accompagne en temps normal. Ah, ça permet de maintenir le lien avec les jeunes et puis de créer de nouvelles choses. Ça va mettre en lumière un petit peu le quartier qui est peut-être un peu plus endormi en ce moment. Et je trouve que c'est pas mal. Hein. C'est quelque chose de positif.
Je m'appelle Fabio. Là, je vais faire de la figuration donc sur la première sur l'après-midi. Et après, ce soir, je vais faire plus être dans le groupe et tout ça. C'est déjà quelque chose, étant donné que moi, j'aimerais bien être acteur, donc ça fait plaisir. C'est déjà un commencement.
C'est la première fois que tu fais figurant?
C'est la première fois que je fais figurant film tout court. C'est la première fois. C'est vrai que c'est grâce à notamment à Arnaud qui m'a mis sur le projet. Ça fait plaisir et voilà. Que du bon pour la suite.
Le court-métrage À Point a été tourné en 6 jours. Il est réalisé dans le cadre du concours HLM sur cours qui veut mettre en avant une vision positive des logements sociaux et de leurs habitants.
Vous se réveillez à 15h, non ?
Je sais, moi je le réveille à midi.
Alors Aurélie Marpeau, de réécouter un petit bout de cette première journée de tournage.
Je suis hyper émue et j'entends Arnaud qui a été un des de mes partenaires forts pour monter ce projet et d'aller à la rencontre des jeunes. Et en plus, quand il y a une démarche d'essayer d'aller dans un quartier où les jeunes sont un peu à se demander, ils sont un peu dans leur quartier, ils ne savent pas trop en sortir, et qu'on arrive tranquillement en fait dans leur quartier et assez simplement en disant bah, « en fait, je le fais ici parce que c'est vous », du coup, la relation elle se fait automatiquement et on est sur le même plan d'égalité. Et souvent, on se rend compte que les amateurs sont d'un professionnalisme hors pair.
Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes qui ont envie de cinéma ?
Moi, on m'a donné un conseil. C'est Jean-Jacques Bernard, qui était le premier président du Zoom, hein, vraiment mon papa du cinéma, qui m'a dit, il y a plus de 10 ans, qui m'a dit « Aurélie, si tu veux faire du cinéma, il faut rentrer par n'importe quelle porte ». J'ai démarré en faisant de la régie générale pour les courts-métrages et des longs. Ce qui m'a permis en fait de rencontrer tous les corps de métier, de comprendre comment ça fonctionnait. Et aujourd'hui, de me dire que j'ai réalisé 4 courts-métrages et dont un qui va passer sur TV5 Monde, OCS. Vous m'auriez dit ça il y a 10 ans, j'aurais fait bah, je le souhaite, mais en ne le croyant pas. Donc c'est aussi ça, on est souvent nous-mêmes nos propres poisons, parce que quand on a des rêves, en fait, on n'a qu'à y croire fort et il n'y a pas de raison que les choses n'arrivent pas, en fait.
Et donc, pour terminer, en quelques mots, vous travaillez sur quoi en ce moment ?
Eh bien, là, je suis en train de travailler sur mon prochain scénario de long-métrage et j'ai aussi un autre court-métrage. Donc, court-métrage qui va être plus film, plus suspense, thriller, un peu plus angoissant, très, très angoissant. Enfin, j'espère. Enfin, en tout cas, voilà. La cuisine sera toujours là. Donc il y a quelque chose avec la restauration où j'ai quand même pas mal travaillé d'années, donc je pense que la cuisine m'accompagne, donc je pense que ça va continuer là-dedans. Et puis du coup sur mon premier long métrage là aussi, donc j'ai 2 projets d'écriture, donc je suis très heureuse de continuer.
Aurélie Marfaux, merci.
Merci beaucoup à vous.
Le film À Point part maintenant dans les plateformes des festivals avec à la clé, toute l'équipe l'espère, une sélection. Mi-septembre, séance à Paris avant un retour sur ses terres natales à l'automne et une projection Zoom à Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse où toute l'équipe du film sera réunie le mercredi 28 et le jeudi 29 juillet pour le tournage d'un clip, celui d'un burgien, l'artiste slammer Martin Chastenet alias Fiche le Rouge. Le morceau s'appelle T'inquiète, inspiré par le court-métrage À Point d'Aurélie Marpeaux. Et pour ces 2 jours de tournage, ils ont besoin de figurants. C'est ouvert à tous de 7 à 77 ans. L'idée, c'est de réunir toutes les générations. Alors, si ça vous intéresse, envoyez un mail à contact@le-zoom.com avec une photo prise par exemple avec votre téléphone, votre numéro de téléphone et votre âge.
Vous pouvez m'expliquer ce que vous faites ce matin ?
Ce matin, entretien de vélo, changement de chaîne, nettoyage de transmission.
On va d'abord commencer par faire la bague. D'accord ? Vous voyez là derrière au fond, loin, il y a une vague.
En reportage avec Radio B.
Le dinosaure et l'homme, deux espèces séparées par 65 millions d'années d'évolution. Comment serait-il possible d'avoir la plus petite idée...
T'as senti ?
...de ce qui va se passer ?
Un extrait du film Jurassic Park, le premier volet réalisé par Steven Spielberg, est sorti en 1993.
Et il y a 150 millions d'années, on pouvait croiser des dinosaures dans l'Ain. Leurs traces sont visibles dans le massif du Jura encore aujourd'hui. À la Plagne, à quelques minutes de Nantua, Dinoplagne a ouvert le 9 juillet. Un site refait à neuf pour accueillir du public. Reportage sur place avec Jean-Pierre Fillon, président de l'Office du tourisme de Terval-Serine et vice-président de la communauté de commune du pays belgardien en charge du tourisme.
À l'époque des dinosaures, il y a 150 millions d'années, il y avait un continent unique qui s'appelait la Pangée, qui s'est tout doucement disloqué. Et le paysage, donc sur des latitudes différentes, était beaucoup plus chaud et ressemblait aux Bahamas actuels. Donc on était sur un paysage marin avec une plage sur laquelle déambulaient des dinosaures dans un paysage idyllique et les hommes n'étaient pas là pour polluer en plus, donc tout allait bien. Progressivement, les Alpes vont se former. À l'ère tertiaire, les Alpes se forment. Et par contre-coup du plissement alpin, tous ces calcaires qui étaient à proximité des Alpes vont s'élever en altitude par cette, le fait que le continent africain rentre sous le continent européen et le Jura va se soulever, monter à plus de 1700 mètres d'altitude. Et ces traces qui étaient en bordure de mer vont se retrouver propulsées à plus de pratiquement 1000 mètres d'altitude. Et après, l'érosion va faire son chemin. Des glaciers vont apparaître à l'ère quaternaire. Ici, on est à peu près sur 800 mètres de glace à l'ère quaternaire, il y a seulement 20-25 000 ans. Les glaciers vont fondre, l'érosion va se produire et progressivement, ces traces vont revenir au jour et on va pouvoir les admirer maintenant. Vous voyez, c'est vraiment un hasard extraordinaire qui a fait qu'on puisse voir ces traces actuellement à 800 mètres d'altitude puisqu'elles étaient auparavant au bord de la mer.
Quand est-ce que ça a été trouvé? Par qui?
Alors, la piste a été découverte en 2009 par deux amateurs, mais ils ne sont pas spécialement amateurs, ils avaient déjà vu beaucoup de traces de dinosaures de par le monde, puisque ce n'est pas le seul site où on trouve des traces de dinosaures. Ici, c'est les plus belles et la plus longue piste. Mais ils connaissaient et ils savaient que sur ce terrain, il était peut-être propice à la découverte de traces, sachant qu'on est sur un site qui date du Titonien. Et au Titonien, on sait que les terres sont immergées et qu'elles ont possibilité d'avoir des traces. Et la Bingo, en venant sur ce chemin, qui était un ancien chemin de débardage de bois, Marie-Hélène, parce qu'honneur aux femmes, c'est elle qui a vu la première fois ce bourrelet, puisque quand un animal marche ou quand vous marchez dans la boue, il y a un bourrelet qui se forme, elle a aperçu ce bourrelet, elle s'est dit, tiens, il est possible que ce soit une trace de dinosaure. Et comme ces bourrelets se répétaient sur plusieurs traces, il y avait la certitude que c'était des traces de dinosaures. Donc ils ont fait appel à des spécialistes, Mazin qui est un paléontologue, Hansberg qui est un géologue, et là ils ont confirmé cette découverte et 3 années de fouilles ont débuté pour découvrir la plus longue piste du monde qu'on a mis au jour jusqu'en 2015. On s'est vraiment focalisé sur cette trace pour savoir comment se déplaçait l'animal, on sait à peu près à quoi il ressemblait et c'est pour ça qu'on a eu aussi l'obligation de conserver cette trace qui est complètement inconnue dans le milieu de la paléontologie et on appelle cette espèce Brontopodus planiensis. On avait le devoir de la conserver aussi. Voilà, là vous êtes sur une trace de dinosaure. Celui-là c'est un sauropode aussi.
Et donc sauropode, ça vivait comment?
Sauropode, c'était des herbivores. C'est comme maintenant, on a des herbivores et des carnivores. Les carnivores qui se nourrissent des herbivores. Il n'y avait pas d'herbe à l'époque. Donc ils se nourrissaient d'une végétation complètement différente. On avait quand même des fougères, des sortes de palmiers. Et puis ils se nourrissaient aussi d'épicéas. Mais imaginez une bestiole de 40 tonnes, ce que ça doit manger par jour. Je peux vous dire que s'ils arrivaient là, avec une forêt comme ça, en l'espace de quelques heures, tout était bouffé. Donc on va rentrer dans la canopée. Allez, vous entendez le bruit de la bête? Vous allez voir, c'est assez spectaculaire. On a mis le paquet sur l'architecture. Vous pouvez commencer à admirer la piste du sauropode qui est passée ici il y a 150 millions d'années. Ce qu'il y a d'intéressant sur cette piste, c'est-à-dire qu'en général, ces sauropodes, quand ils se déplacent, avec la patte arrière, ils recouvrent la main avant. Mais là, on a la chance d'avoir la main et la patte. Donc vous verrez, on voit très bien les 5 doigts de la main et les 5 doigts de la patte. C'est la famille un peu des Diplodocus, pour ceux qui ont l'habitude d'entendre ce nom, mais là, on est sur un titanosaure, c'est encore plus gros. Il y a des titanosaures qui arrivent à peser 100 tonnes. Celui-là est un petit quand même, il fait 40 tonnes. Alors imaginez, vous retrouvez à côté d'une bestiole de 40 tonnes, c'est-à-dire qu'elle ne passait pas sous le toit ici. Hein. Elle faisait à peu près 40 mètres de long. Un long cou, une petite tête, un corps relativement étroit malgré tout, et une queue gigantesque qui devait lui servir pour évacuer un petit peu les prédateurs qui venaient l'embêter.
Allez, on lance.
Alors, on teste la VR. C'est bon, pourquoi ?
Vous pouvez vous tourner. Hein.
Donc là, on est sur une plage avec des dinosaures.
Vous pouvez regarder le ciel, vous tournez, vous allez voir arriver le sauropode derrière vous. Là, c'est un ptérosaure, vous voyez, qui vient vers vous. Vous pouvez le caresser. Bonjour. Ah. Normalement, il devrait venir nous dire bonjour. Voilà. Bonjour.
Ouh là là.
Salut.
Ouh. Oh, il est prêt là. Non, flippant. Il vient nous dire bonjour. Ouais, donc on arrive à la taille de ses genoux, quoi. Nous.
On a des vrais gamins. Voilà. Allez au suivant.
Retour à la réalité.
Bon. Allez, vous allez voir les dinosaures.
C'est génial.
Et si on devait résumer les grands objectifs de ce lieu, ce serait quoi?
Les grands objectifs de ce lieu, c'est en faire un lieu de découverte, un lieu d'apprentissage, d'apprendre un petit peu ce qu'est l'évolution, ce qu'est la vie de notre planète, puis apprendre par ce biais à la protéger, savoir qu'elle est très fragile, et voir le dégât qu'on a déjà causé sur cette planète, ça permet de réfléchir, et de réfléchir à notre avenir.
Je vous souhaite une très belle visite.
Merci. Bah oui, merci, c'est gentil.
Et je vous ouvre le portillon.
Bien vivant.
Je vous ouvre le portillon.
Pas bouffé.
Allez, on y va. Alors, où?
Donc on fait le chemin, là, on va vers le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Il y a des questions à chaque fois qu'il y a un numéro.
Alors vous avez pensé quoi de Dino Plagne ?
Alors, pour une ouverture, c'est bien. En plus, ils ont de la chance d'avoir le beau temps, parce que ce n'était pas gagné. Par contre, je pense qu'il y a encore 2-3 choses à améliorer. Au niveau des panneaux, on ne voit pas le lien entre le panneau et ce qu'il y a derrière, la statue qu'il y a derrière. Et il y a des panneaux, on n'a carrément rien vu derrière, on n'a pas compris. Donc, ce qui rehausse le tout, c'est le casque virtuel, du coup, qui a redonné un peu de baume aux enfants. Mais voilà, il fait beau, on a passé un bon moment, c'est déjà bien. Le paysage est magnifique, donc voilà.
Et vous venez d'où ?
De Jujurieux.
Ouais, j'étais bien contente de venir, surtout pour le petit-fils qui voulait voir les dinosaures, lui.
Et vous venez d'où ?
De là, à côté. On a vu ça hier soir à la télé et on s'est dit, on vient.
Et vous pensez quoi, donc, des empreintes ?
Ah bah, c'est impressionnant. On s'imagine pas que ça va aussi gros. Et puis, de les voir en vrai, c'est très bien.
Alors, d'où vous venez ?
Nous venons du Nord, du 59.
Pourquoi vous êtes venu ici aujourd'hui ?
Bah parce qu'on avait entendu déjà, j'en avais déjà entendu parler un petit peu, et on m'a dit que ça allait ouvrir dans pas très longtemps, donc je dis bon, on va aller voir. Puis les enfants sont fans de dinosaures, donc on a déjà visité les grottes du Cerdon et tout ça, donc tout ce qui est préhistoire, donc on a voulu continuer dans notre lancée avec Dino Plagne.
Et qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bah, franchement, c'est bien, c'est accessible pour les poussettes parce que nous avons un enfant en bas âge. Ensuite c'est bien, les explications sont super, la vision 3D avec les téléphones portables au niveau des cadres, c'est super aussi, et bien expliqué, le petit jeu super sympa pour les enfants, ils ont beaucoup apprécié. Par contre nous avons pas fait la réalité virtuelle, par contre franchement ouais, c'est un gros travail qu'ils ont fait quand même. Et ce qui est bien, c'est qu'ils conservent. Ça va être conservé encore assez longtemps parce que, d'après ce que j'ai compris, avant, c'était pas protégé du tout. Et les empreintes ont commencé à se dégrader à cause du public qui commence à poser dessus et tout ça, normal. Du coup, grâce à ça, ça va rester gravé, on va dire, dans l'histoire.
Et t'as pensé quoi alors de cette visite ?
C'était trop bien. Je me suis bien amusée.
Qu'est-ce que t'as aimé ?
J'ai aimé avec les ptérodactyles, là, la photo des ptérodactyles, c'était mon truc préféré en plus, c'est mon dinosaure préféré, donc voilà.
Fabienne Richard, donc je suis à la fois directrice du développement touristique de la Comcom et directrice de l'office de tourisme.
Comment vous voyez l'avenir du site ?
Déjà, l'année prochaine, on espère pouvoir ouvrir du mois d'avril au mois de novembre pour accueillir le maximum de visiteurs. Et puis, on envisage de réaliser plein d'animations. Là, ça, au regard de ce panorama, ça peut être la nuit des étoiles, etc. On a aussi tout équipé le site en matière d'éclairage, donc on peut faire des nocturnes. Et puis, on a plein de perspectives d'évolution. Mais quand bien même tout en restant dans l'imaginaire, puisque on est vraiment sur des données scientifiques, donc on ne va pas faire une image, une représentation d'un dinosaure qui serait purement sorti de l'imaginaire ou quoi que ce soit. L'idée, c'est donc d'avoir des structures filaires qui guident l'imaginaire pour en mesurer l'ampleur, imaginer le déplacement, mais pas aller au-delà pour pas transmettre de la fausse information.
Et l'entrée à Dino Plagne se fait uniquement sur réservation. C'est 12 euros pour les adultes, 8 pour les enfants. Et le site est ouvert jusqu'au 29 août.
À vous les Burgiens, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute.
Dernier numéro de la saison, alors rendez-vous à la rentrée. Et d'ici là, passez un bel été.
Quand on voit que les gens galèrent avec les salaires qu'on a, qu'est-ce que ça va être qu'on va être à la retraite ?
Ce qu'on déplore depuis des années, c'est le manque d'effectifs.
Je les suis, les filles, je trouve extraordinaire ce qu'elles font.
Ça fait comme si on envoyait des tas de petites bulles de musique un peu partout dans les cellules.
Une salle pour juste où on se pose l'hiver, au chaud.
Il faut des endroits et des structures adaptées pour récupérer les abîmés de la vie qu'on est.
À vous, les Burgiens.
Inès Lombarté, Audrey Arnondi.